texte que Roland Buick a choisi pour introduire sa méditation, nous le trouvons dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 3, nous lirons tout d'abord les deux premiers versets. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous poursuivons avec le verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour chanter. Et enfin, le verset 7. Un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs.
Bonjour à tous, je vous souhaite un bon sabbat. L'été semble revenir, je me suis mis en costume d'été, vous m'excusez. Je vais présenter ce matin un sujet qui est un véritable défi. Je vais parler du temps. J'espère que je vais ôter ma montre et j'espère rester dans le temps. Les médias nous apprennent de la situation économique et politique en parlant de temps de crise. Il y a aussi le temps de la récession, comme en Grèce, le temps d'austérité et de rigueur. Je ne vois pas trop bien la différence entre les deux, mais on en fait mention. On parle aussi de temps qu'il faut étaler. Il faut étaler dans le temps. Les mesures qui sont prises doivent être étalées dans le temps. Ce qui nous montre que le temps est quelque chose de difficile à saisir. D'ailleurs, ce que je viens de dire est déjà dans le passé. Et le temps passe très vite. Les jours s'écoulent très vite. Ma réflexion de ce matin sera en trois parties. La première, Dieu et le temps. La deuxième, l'homme et le temps. Et la troisième, les temps prophétiques. Vous voyez, c'est une véritable gageure de présenter cela en 20-25 minutes. J'aimerais que vous me donniez quelques expressions sur le temps. Par exemple, moi je dis « je n'ai pas le temps ». Alors dites-moi quelques expressions, spontanément. Fort. Le temps, c'est de l'argent. Time is money, oui. Il y en a qui connaissent ça. Pardon ? Perdre son temps. De temps en temps. Ou de temps à autre. Oui, encore ?
Passer du bon temps.
Passer du bon temps. J'espère que vous avez passé du bon temps pendant ces vacances. Même si le temps n'était pas merveilleux. Encore ?
Le temps perdu ne se rattrape pas.
Ah oui ? Il y en a encore d'autres. Autant jadis. Ah, racheter le temps, ça c'est un texte biblique que l'on ne comprend pas toujours, mais que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure.
À la recherche des temps perdus.
Pardon ?
À la recherche des temps perdus.
À la recherche du temps perdu. Oui, ça va avec ce qui vient d'être dit. Oui. On peut dire aussi.
Un temps et la moitié d'un temps.
Comment ?
Un temps, deux temps et la moitié d'un temps.
Tiens, où est-ce que vous trouvez cela ? Nous le trouvons dans la parole de Dieu et nous en parlerons peut-être tout à l'heure. On dit aussi travailler à plein temps, travailler à mi-temps, travailler à temps partiel, etc., etc. Vous voyez, on peut vraiment mettre le temps dans toutes sortes de positions, dans toutes sortes de situations. Le temps peut-il être une bénédiction ? Qu'en pensez-vous ? J'entends des oui, d'autres moins. Quand on vieillit, est-ce qu'il est toujours une bénédiction ? Quand on commence à avoir de l'arthrose, qu'on a des bobos par-ci, par-là, que l'on commence à avoir des mal de dos, ou bien que l'on a été victime d'un accident et qu'il faut attendre que cela se répare, que ça se remette en ordre. Oui, ce n'est pas toujours une bénédiction, mais dans l'ensemble, c'est une bénédiction et nous allons voir pourquoi. D'abord, le temps de Dieu, qu'est-ce qu'il est ? Le temps est éternel, parce que Dieu est éternel. Alors là, ça nous dépasse. Et quand je lis « D'éternité en éternité, tu es Dieu », je ne comprends plus très très bien. D'éternité en éternité. L'éternité, c'est l'éternité. Mais d'éternité en éternité. C'est le psalmiste qui dit cela. Il le dit à deux reprises. Il y a aussi ce texte. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça nous montre bien que donc Dieu est bien éternel et qu'il est au-dessus du temps. Certaines notions d'éternité, d'ailleurs, m'époustouflent quand, par exemple, je vois des documents scientifiques sur l'astronomie et que l'on nous parle des milliers de galaxies, que l'on nous montre les planètes, les étoiles, les constellations, et que l'on vous parle de cela en milliards d'années-lumière. On est essoufflé. Quand je pense que notre petite planète est toute petite dans cette galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Mais c'est une merveille. C'est vrai que je me sens tout petit face à tout ce qui est et tout ce que le monde découvre, tout ce qu'avec les moyens que l'on a aujourd'hui, on peut découvrir. Mais pourtant, je suis grand quand je pense qu'en tant qu'homme, j'ai été créé par Dieu. Ce Dieu qui est éternel, ce Dieu qui est tout-puissant, qui est au-dessus du temps. Quand je pense que l'homme aurait pu vivre éternellement, Dieu voulait qu'il vive éternellement. Il lui a donné d'ailleurs un arbre, l'arbre de vie, pour vivre éternellement. Cependant, nous avons, dans Ecclésiaste 3 et au verset 20, nous avons lu « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter. » Autrement dit, Dieu, dans l'éternité, a créé le temps. Il a créé la terre en 6 jours. Il aurait pu la créer en un seul jour, et même peut-être moins. Il est si puissant. Il a tout pensé, tout imaginé, et avec son fils, il aurait pu vraiment faire ça en un rien de temps. N'est-ce pas? Mais voilà, il l'a créé en 6 jours. Et remarquez ce qu'il est dit. Que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est extraordinaire. Est-ce que vous pensez un peu à l'éternité? Vous pensez à ce que Dieu nous a promis par Jésus? Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et Adam et Ève le savaient. La meilleure preuve, c'est qu'ils savaient très bien qu'il y avait donc le jardin, dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie. C'est là qu'ils devaient se nourrir et garder acquérir cette pensée de l'éternité. Mais Satan le savait lui aussi. Et qu'a-t-il dit? Mais vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez point. La notion de l'immortalité. Oui, Dieu a créé le temps et il l'a créé pour l'homme. 6 jours de création, 1/7 qui est le jour anniversaire de cette création. Ce 7e que nous célébrons tous. Dans Genèse 8, 22, il nous est parlé des saisons. Il nous est parlé de l'été, du froid, de l'hiver, de la chaleur, de la nuit, du jour. Et c'est curieux parce que Dieu en parle après le déluge. Autrement dit, avant le déluge, il eût été possible de vivre très longtemps. Dites-moi, quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps? Methusalem. Et combien a-t-il vécu de temps? 969 ans, presque 1000 ans. Donc, dans le plan de Dieu, l'homme était destiné pour l'éternité. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que non seulement Dieu parle des saisons, mais il parle de jours. Et comment parle-t-il de jours lorsqu'il crée? Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, ensuite le deuxième, le troisième, jusqu'au sixième et le septième. Il y eut un soir, il y eut un matin. Qu'est-ce à dire? Dieu, dans sa bonté, et pour son bonheur, a mis d'abord le repos pour l'homme. Il désire que l'homme ne soit pas harassé par le travail. Il est nécessaire d'avoir un temps de repos. Et pour nous faire comprendre cela, il a commencé par un soir et un matin. Récemment, un frère me disait « Oh, si tu savais, comme je suis content d'être adventiste, au moins il y a un jour de repos. » Et c'est vrai, quand on voit le monde fou d'aujourd'hui, on se pose la question « Mais où va ce monde ? Il court après le temps ?» Ça me fait penser à une voiture, alors que je roule sur une route à 90, une voiture me dépasse à 110, à 120 à l'heure. Et puis je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il va si vite ? Un instant après, je suis juste derrière lui au feu rouge. Et j'ai envie de lui dire, ah, tu vois, hein, tu veux te dépêcher, tu veux aller plus vite que les autres. À quoi ça sert ? L'homme est dans le temps que Dieu a marqué pour lui, c'est-à-dire en termes de jours, de mois, d'années et de saisons. Récemment, un paysan me disait, il n'y a plus de saison. Et c'est vrai, on a eu l'impression qu'au mois de mai, on était au mois de juillet, et maintenant, au mois de septembre, on a l'impression qu'on est de nouveau au mois de juillet. Il n'y a plus de saison. Pourtant, quand vient l'hiver, on sent bien qu'il y a une saison. Dieu a marqué les temps, les saisons, et chaque printemps est un émerveillement. L'hiver, ensuite, se pointe, après un printemps, un été, un automne. Métichéla a vécu 969 ans, Noé a vécu 950 ans, et après le déluge, on voit que le nombre d'années a diminué considérablement. Térak, père d'Abraham, a vécu 205 ans. C'est énorme, mais à côté de 969 ans, Abraham lui-même a vécu 148 ans. J'aimerais poser une question. Quels sont ceux qui ont plus de 70 ans parmi vous ? Je peux voir vos mains ? Plus de 70 ans. Ah, il y en a quand même, hein ? Oui, oui. Maintenant, plus de 80 ans. Oui, un peu moins, mais il y en a. Vous connaissez le texte du psaume 90, verset 10 ? On va le lire ensemble, psaume 90 et au verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Alors, il y a des robustes parmi nous. Malgré les peines physiques, malgré les petits maux que l'on a chacun. Et ceci a été dit par le psalmiste il y a combien d'années ? Au moins 2500 ans. C'était incroyable. On a l'impression maintenant que l'homme vit un peu plus longtemps et on parle beaucoup de centenaire. Est-ce bien ? Est-ce mal ? Je n'en sais trop rien. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que l'éternité vienne bientôt. Oui, tout à l'heure, quelqu'un a dit « Rachetez le temps ». Car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps ? J'ai cherché dans plusieurs traductions, j'ai essayé de comprendre, avec mon épouse, on a essayé de tourner le problème dans tous les sens. Et en prenant le texte dans son contexte, les jours sont mauvais, l'apôtre Paul il parle de conduite, de veiller à notre conduite, qu'elle ne soit pas inconsidérée. Autrement dit, faites un bon usage du temps présent. Donc il n'y a pas une question de racheter le temps ou de rattraper le temps. Mais faites un bon usage du temps présent. C'est possible. C'est possible parce que c'est l'ordre du mental. Et ce qui est de l'ordre du mental est l'ordre spirituel. Et ce qui est spirituel est en rapport avec Dieu. Donc si Dieu m'inspire dans ce que je fais, dans le temps présent et dans le temps futur, il va m'aider à vivre conformément à ce qu'il aimerait que je sois. Aujourd'hui, tout va vite. Nous voulons gagner du temps. Ça me fait penser à une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps de cela. Un prince arabe, fier de sa dernière voiture, toute luxueuse, croise un chamelier. Il se dit, tiens, je vais lui poser une question. Alors il s'arrête, chamelier aussi. Alors, dites-moi, combien de temps mettez-vous pour aller de cet endroit, je n'ose pas dire les noms, jusqu'à tel endroit ? Oh, dit le chamelier, je mets à peu près 15 jours. Ah, eh bien moi je mets une journée. Et le chamelier de dire, et après, qu'est-ce que vous faites? Il y a une évolution dans le temps. Et c'est vrai, quand je pense à l'invention de la roue, l'invention de la roue a changé beaucoup, beaucoup de choses. On a pu avoir des charrettes, et aujourd'hui on peut avoir des voitures. Il y a l'invention de l'ordinateur. Autrefois, on écrivait avec une plume d'oie. Je ne me vois pas écrire avec une plume d'oie. Nous sommes tous toujours occupés à courir après le temps. Et je me souviens du jour où je suis revenu de Madagascar et j'étais nommé comme pasteur à Paris-Sud, au 130. Et j'ai pris donc le métro depuis Antony. Et c'était une heure où les gens donc rentraient chez eux. Et moi, j'allais au bureau. Et j'étais bousculé. J'allais à droite. Je me demandais si j'avançais ou si je reculais. Et je me disais, mais quel monde fou ! Ils sont tous en train de courir. Alors que moi, j'avais l'habitude à Madagascar de prendre mon temps, de vivre avec le temps comme les gens vivaient avec leur temps. Et c'était tellement plus merveilleux. Je n'ai pas le temps. Je suis toujours en train de courir pour le temps. Je n'ai pas le temps. Et je n'ai si peu le temps que je peux être une de ces vierges folles qui ne sera pas prête lorsque Jésus frappera et invitera aux noces de l'agneau. Je n'ai pas le temps pour étudier, pas le temps pour étudier ma Bible, pas le temps pour étudier les prophéties. Oh, je prends un peu de temps pour mon école du sabbat, bien sûr, parce qu'il faut quand même que je sois là, que je sois présent, que je dise quelque chose. Mais je n'ai pas le temps. Et ça, c'est dramatique. Parce que dans le temps que Dieu a donné à l'homme, Dieu a prévu des prophéties qui lui permettent, j'allais dire, d'accepter le temps. Ces prophéties ne sont pas celles des Mayas. Vous savez qu'en 2012, d'après le calendrier Maya, c'est la fin de l'ère mondiale. C'est la fin du cycle de 5125 années sur 26 000 ans. Alors, le 21 décembre 2012, que va-t-il arriver? J'ai un peu l'impression que, comme en l'an 2000, les gens vont être un peu déçus. À moins que ce soit le retour du Christ. Je l'aimerais même plus tôt, je ne sais pas. Il parle d'un alignement des planètes qui fera que ce sera vraiment un temps marqué, un temps spécifique. On vous parle d'un renouveau de l'homme qui deviendra un surhomme. Beaucoup ont été tentés de donner des dates pour la fin de notre monde. Vous connaissez, les disciples, les premiers, ont espéré que ce soit de leur temps que Jésus revienne. Et quand ils parlaient comme si ça allait être de leur temps. Les disciples croyaient en l'imminence du retour du Christ en considérant Rome comme étant la Babylone qui va tomber. On parlait de Rome comme Babylone. Les Huguenots prévoyaient la chute de Babylone en 1689. Et lorsqu'il parle de la chute de Babylone, c'est-à-dire de tout ce système papal qui amenait le pouvoir séculier et régulier à combattre les Huguenots et tous ceux qui n'étaient pas dans l'ordre des choses. Mais bien avant les Huguenots et bien avant les premiers chrétiens, il y avait un prophète qui s'appelait Ésaïe. Et Ésaïe annonçait « elle est tombée, Babylone la Grande ». Ce texte, d'ailleurs, que l'on reprend d'Apocalypse 14, c'est littéral. Or, ce n'est que 130 ans après sa mort que Babylone est tombée. On peut dire la même chose pour nous. Nous prêchons « elle est tombée, Babylone ». Mais est-elle tombée? Nous prêchons qu'elle est tombée, mais elle va tomber un jour. Et puis, qui est Babylone? Qu'est-ce que Babylone? J'essaye de comprendre au travers de la prophétie que c'est la grande prostituée, que c'est une union de la bête, de son image, etc., et du faux prophète. J'essaie d'imaginer tout ça, la grande ville. Mais ce n'est pas très très facile à comprendre. Jésus lui-même parlait du temps où il devait venir, et vous savez qu'il a dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Lui-même ne savait pas le jour ou l'heure de son retour. Seul le Père le sait. Mais après Ésaïe, il y a eu un autre prophète qui, lui, a reçu des visions extraordinaires. Certainement que vous les avez lues, vous connaissez ce livre de Daniel, ces animaux épouvantables qui représentaient des empires, et puis le quatrième empire avec des dents de fer qui broyait tout. Et il y a eu des interprétations, et nous croyons à ces interprétations qui sont dans le temps, qui sont dans des temps qui sont donnés à chacun de ces empires. Est venu le moment où Daniel a reçu une vision au sujet d'une puissance qui allait renverser la vérité et qui allait renverser le sanctuaire. Alors là, Daniel a été choqué, il a été blessé, il en est tombé malade. Et l'ange Gabriel est venu pour lui expliquer la vision. Je vais te l'expliquer, cette vision. Et il lui parle de 2300 années. 2300 années! Puis le sanctuaire sera réhabilité ou sera rétabli. 2300 années. Imaginez que l'on vous dise, oui, c'est dans 2300 ans que le Christ reviendra. Bon, vous direz, bon, on sera mort d'ici là, et certainement qu'à la résurrection, on se retrouvera. Mais je me souviens de mon grand-père qui, à l'âge de 97 ans, et qui a été un pionnier de notre œuvre, peu de temps avant sa mort, il me disait, « Ah, mon petit-fils, si tu savais, combien j'ai espéré voir Jésus revenir de mon vivant. Mais toi, tu le verras. » Ah, je l'espère. Et je pense que vous l'espérez vous aussi. Daniel a vu une prophétie qui va être... présentée, une période de 2300 soirs et matins. Comme Dieu l'avait dit à Ézéchiel, tu compteras un jour pour un an. Donc 2300 années. À quel moment cette prophétie a commencé ? Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez la plupart d'entre vous ce dont il s'agit. En 457 avant Jésus-Christ, un certain roi Artaxerxès Longuemain a accordé le privilège aux Juifs de retourner à Jérusalem avec tous les moyens de reconstruire le temple. Et il a fallu un certain temps pour construire ce temple. Et puis, cette première partie que vous voyez, on peut voir le deuxième cliché. Cette première partie que vous voyez, donc, en 7 semaines, c'est-à-dire une période de 42 ans, et oui, il a fallu du temps pour reconstruire le temple et Jérusalem. Les Samaritains et d'autres mettaient obstacle. Et même, il y a eu des représentants de Samaritains qui sont allés voir le roi des Perses. Et puis, voilà, il reste encore une période de 62 semaines. Et une semaine, et au milieu de cette semaine, c'est-à-dire 7 ans, un oint sera retranché, ce que nous dit le prophète Daniel. Donc au bout de 3 ans et demi du ministère de Christ, Christ est mort sur la croix. Et c'est intéressant de comprendre, parce que à partir de cette période, de cette fin, eh bien, il y a encore 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi nous amènent à la vision d'Étienne, le diacre Étienne, qui voit, qui dans sa longue prédication, beaucoup plus longue que celle que je vous fais ce matin, si vous lisez les chapitres, il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Ça lui a causé sa mort, car il a été lapidé. Et Saul de Tarse était là, comme témoin de cette lapidation. Donc, à partir de 34, il y a véritablement un rejet. Et ce rejet a amené des guerres fratricides dans Jérusalem. Des guerres entre telle partie et telle partie. Un de ces partis était dans le temple. On lit, grâce à un certain Flavius Joseph, que on sacrifiait même du porc dans le temple, dans le sanctuaire. On dormait, les soldats dormaient, les soldats de ces fractions dormaient. Et Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Il avait dit aussi qu'il était préférable de quitter Jérusalem avant qu'il soit temps. Et vous savez qu'en l'an 70, après que Vespasien et ensuite Titus, qui ont été les deux Césars de l'époque, aient attendu que cela se pourrisse dans la ville de Jérusalem, bien finalement, Titus, avec ses armées, est rentré dans la ville. Par accident, semble-t-il, il y a eu le feu qui a été mis et le temple a été détruit. Et selon l'habitude des Romains, à cette époque-là, on rasait tout. Et voilà que sur cette grande esplanade, un jour fut construite une mosquée, la mosquée d'Omar. Et un peu en dessous, oui, il y a nos pauvres juifs qui sont là, en train de pleurer devant le mur des lamentations. Ils auraient préféré être dessus, être sur l'esplanade et reconstruire le temple. Mais il y a tout un projet qui est fait par Israël. On a trouvé les fonds pour reconstruire le temple. On a déjà fait le costume du souverain sacrificateur. Il y a déjà des hommes qui ont été préparés pour être des lévites. Parce qu'on s'imagine que c'est sur cette Jérusalem qu'aura lieu, donc aura lieu le début de la paix et de l'éternité. Alors c'est quand même étrange. Parce que les musulmans disent, c'est là, à Jérusalem, que le septième imam viendra sur son cheval blanc. Les chrétiens disent, Jérusalem, c'est notre cité, c'est la cité de paix, c'est la cité pour laquelle on a envoyé des croisades. Et c'est là que tout le monde sera sous le gouvernement de Jésus-Christ. Musulmans, chrétiens, juifs, juifs attendent que la porte dorée s'ouvre pour laisser passer le Messie. Nous savons très bien qu'il ne s'agit pas de cette Jérusalem. Mais dans cette prophétie, on peut reprendre le suivant, bien le suivant, nous arrivons, il reste de 34, si on retire 34 à 2300, il reste une période de 1810 ans. Pendant ces 1810 ans, si on ajoute à 34, on arrive à 1844. Mais pendant cette période, il y a une autre prophétie qui a été donnée par Daniel et qui se trouve aussi dans l'Apocalypse, une période de 1260 années. Vous voyez comme Dieu est bon parce que dans le temps qui nous est donné, il nous avertit de certaines choses qui vont se passer. Et 1844, oui, c'est la période de 1260 ans, c'est celle de l'hégémonie papale, jusqu'au moment où il y a la chute, où le pape a été amené à Fontainebleau. Donc, une période de persécution. Je suis en train de lire un livre sur les Huguenots, un témoignage de Huguenots, et je vous assure que c'est terrible. C'était une période abominable. Je dirais presque aussi grave et aussi pire que la période des premiers chrétiens. Mais voilà que 1844, beaucoup d'hommes et de femmes se sont mis à étudier les prophéties de Daniel, un peu l'Apocalypse. Et elles se sont rendues compte que 1844 était la date finale. Donc le Christ allait revenir en 1844, d'abord en automne 43, ensuite en 44, et certains avaient tout vendu, leur mobilier, leur maison. Certains s'étaient même mis en vêtements blancs pour recevoir le Jésus-Christ. Et ce fut la grande déception. Mais ce n'est pas une grande déception, parce qu'après avoir étudié, il y avait des groupes qui étudiaient les textes prophétiques. Et ces premiers groupes ont été les premiers groupes d'adventistes du septième jour. Et ces groupes ont compris que c'était l'œuvre de Jésus-Christ, qu'après l'œuvre de Jésus-Christ qui était venu se donner, après il y a eu l'œuvre de Jésus-Christ comme avocat et l'œuvre de Jésus-Christ maintenant qu'elle est commencée par le jugement. Et l'apôtre Pierre dira, ce jugement commencera par la maison de Dieu. Et je puis dire qu'il a commencé par la maison de Dieu. Donc, nous sommes dans le temps qui est le temps de la fin, mais la fin du temps de la fin, je l'espère. Par déduction, donc, on en est arrivé à comprendre qu'il fallait qu'il y ait un mouvement qui soit prophétique, qui naisse, qui grandisse, qui se développe dans le monde entier. Et soyez fiers, frères et sœurs, d'être adventistes du septième jour. Soyez fiers d'être dans le temps de cette prophétie. En conclusion, je pourrais dire que c'est un privilège que de comprendre ces prophéties. En conclusion, j'aimerais aussi préciser que c'est un privilège, c'est une bénédiction, parce que ce qui est le plus encourageant pour moi, c'est de comprendre que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous dans le temps. Il s'est incarné dans le temps. Et ceci pour nous inviter à bénéficier avec lui de l'éternité. Jésus s'est mis dans le temps des hommes. N'a-t-il pas dit « Je suis l'alpha et l'oméga » ? Donc il y a un commencement et une fin. Or si Jésus est éternel, il s'est donc mis dans le temps des hommes pour nous sauver et nous offrir l'éternité. Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à vivre pleinement ce temps. Racheter le temps, ça veut dire ne vous laissez pas influencer par le temps présent, comme dira l'apôtre Romain. Ne vous laissez pas influencer, ne soyez pas inconsidérés. Vous, les jeunes, et vous, les adultes, soit dans le découragement, soit en vous disant « Oh, on a encore le temps, j'ai encore le temps de donner mon cœur à Jésus. J'ai encore le temps de me préparer. J'ai encore le temps d'étudier. » Non, que le Seigneur nous accorde le temps. Il nous le donne, que nous puissions en profiter. C'est ma prière. Amen. Que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.